20. Luc était de retour dans le caisson d'isolation sensorielle. Zeke lui enfonçait la tête sous l'eau et les lumières de Stasi dansaient devant lui. Elle tourbillonnait également à l'intérieur de sa tête et c'était 10 fois pire. Rien qu'à les regarder, il allait se noyer. Tout d'abord, il crut que le cri qu'il entendait, alors qu'il remontait à la surface de la conscience en battant des bras, venait de lui, et il ne comprenait pas comment il pouvait produire un vacarme aussi infernal sous l'eau. Puis il se souvint qu'il se trouvait dans un wagon de marchandises, wagon qui faisait partie d'un train en mouvement qui maintenant ralentissait brutalement. Le hurlement en question était le crissement des roues sur les rails. Les points colorés subsistèrent encore quelques secondes avant de disparaître. Un noir d'encre régnait à l'intérieur du wagon. En voulant étirer ses muscles ankylosés, Luc s'aperçut qu'il était coincé. 3 ou 4 emballages contenant les moteurs hors bord étaient tombés. Il voulait croire qu'il avait provoqué cette chute en se débattant au milieu de son cauchemar, mais il songeait qu'il l'avait peut-être fait mentalement, quand il luttait contre ces satanées lumières. Autrefois, ses pouvoirs psychiques se limitaient à faire basculer des plats à pizza d'une table de restaurant ou à tourner les pages d'un livre. Mais les temps avaient changé. Il avait changé. Dans quelle mesure? Il l'ignorait et il n'avait pas envie de le savoir. Le train ralentit encore et franchit bruyamment des aiguillages. Luc avait conscience d'être dans un état de détresse avancée. Si son corps n'était pas encore en alerte rouge, il avait assurément atteint le code jaune. Il avait faim, ce qui était déjà un problème, mais la soif reléguait au second plan les tiraillements de son ventre vide. Il se revoyait dévalant la pente jusqu'à la rivière, là où était amarré le SS Pocky, et s'aspergeant le visage d'eau froide, la portant à sa bouche entre ses mains jointes. Il aurait tout donné pour boire l'eau de cette rivière. Il passa sa langue sur ses lèvres, sans que cela lui procure un grand soulagement, car elle était toute sèche. Le train s'arrêta et Luc rempila les cartons à tâtons. C'était lourd. Il n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait, car en gare de Sturbridge, quelqu'un avait fermé entièrement la porte du wagon Southway Express. Il regagna sa cachette derrière les cartons et attendit, la mort dans l'âme. Il s'assoupissait de nouveau malgré la soif, la faim, sa vessie pleine et la douleur qui palpitait dans son oreille, lorsque la porte du wagon s'ouvrit avec fracas, laissant entrer un torrent de clair de lune. Un torrent à ses yeux, du moins, après le noir total dans lequel il s'était réveillé. Un camion approchait du wagon en reculons et un type braillait « Continue ! Encore ! Doucement ! Encore un peu ! Stop !» Le chauffeur du camion coupa son moteur. Le haillon s'abaissa bruyamment, puis un homme sauta à bord du wagon. Luc sentit alors une odeur de café qui provoqua des gargouillis dans son ventre, si sonores que l'homme devait forcément les entendre. Mais non. Risquant un coup d'œil entre un tracteur de jardin et une tondeuse, il l'aperçut. Il portait un bleu de travail et avait enfilé des bouchons d'oreilles. Un autre homme le rejoignit et déposa sur le sol du wagon une lanterne, dirigée, Dieu merci, non pas vers Luc, mais vers la porte. Ils tirèrent une rampe métallique sur laquelle ils entreprirent de faire glisser des caisses du camion au wagon. Chacune portait les mentions « colère, eau et fragile ». Conclusion, où qu'il se trouve, il n'était pas encore arrivé au terminus. Après avoir chargé 10 ou 12 caisses, les deux hommes s'offrirent une pause et sortirent un sac en papier contenant des donuts. Luc dut faire appel à toute sa volonté. Il imagina que Zeke lui enfonçait la tête à l'intérieur du caisson. Il pensa aux jumelles Wilcox, à Kalisha, à Nikki et à tous ceux, Dieu seul savait combien ils étaient, qui comptaient sur lui. Pour s'empêcher de jaillir de sa cachette et supplier ses hommes de lui donner un morceau, juste un petit morceau de donut. Mais peut-être aurait-il fini par craquer si l'un d'eux n'avait pas prononcé des paroles qui l'avaient pétrifié. « Au fait, t'as pas vu un gamin traîner dans les parages par hasard ?»«
Quoi ?»
répondit l'autre, la bouche pleine.
« Un gamin, quand t'es allé apporter la thermos au conducteur. »«
Qu'est-ce qu'un gosse foutrait par ici à 2h30 du matin ?»«
Un gars m'a posé la question quand j'ai acheté les donuts. » Il disait que son beauf l'avait appelé du Massachusetts et qu'il l'avait réveillé en plein sommeil pour lui demander d'aller jeter un coup d'œil à la gare. Le fils de ce type du Massachusetts a fait une fugue, à ce qu'il paraît. Il parlait toujours de sauter à bord d'un train de marchandises pour aller en Californie. C'est à l'autre bout du pays. Je sais bien,
Et toi aussi, mais un môme, est-ce qu'il le sait? S'il travaille bien à l'école, il sait que Richmond, c'est pas à côté de Los Angeles.
Ouais, mais c'est aussi un embranchement. Le type disait que le gamin avait peut-être pris ce train et qu'il était descendu pour essayer d'en choper un autre qui allait vers l'ouest.
En tout cas, j'ai vu aucun gamin.
Le type disait que son beau-frère offrirait une récompense. Il pourrait me filer $1 million, Billy. Si j'ai pas vu ce gosse, je peux pas l'inventer.
Si mon ventre se remet à gargouiller, je suis foutu, songea Luke. Grillé, carbonisé.
Au dehors, quelqu'un cria « Billy, Dwayne, 20 minutes, les gars, grouillez-vous !»
Billy et Dwayne chargèrent encore quelques caisses scolaires à bord du wagon, firent glisser la rampe à l'arrière du camion et repartirent. Luke eut le temps d'entreapercevoir la silhouette d'une ville, laquelle, avant qu'un homme en bleu de travail, coiffé d'une casquette de cheminot, referme la porte coulissante du wagon, mais pas entièrement.
Luke devina qu'il y avait un endroit qui coinçait dans la glissière.
5 minutes encore s'écoulèrent avant que le train s'ébranle, lentement tout d'abord à cause des aiguillages, avant de prendre de la vitesse. Un homme qui se faisait passer pour le beau-frère d'un autre homme. Il parlait toujours de sauter à bord d'un train de marchandises. Il savait qu'il s'était enfui. Et même s'ils avaient découvert le poki en aval de Denison Riverbend, il ne s'était pas laissé berner. Sans doute avait-il fait parler Maureen ou Avery. Il chassa de son esprit l'effroyable vision de l'avorton torturé pour livrer des renseignements. S'ils avaient envoyé des gens ici afin de guetter sa descente du train, cela voulait dire que d'autres personnes l'attendraient au prochain arrêt également, et peut-être ferait-il jour alors. Il était possible qu'il se contente de le repérer et de le signaler pour éviter les ennuis, mais il pouvait tout aussi bien essayer de le capturer, en fonction de leur nombre et de leur degré de panique.
« J'ai peut-être voulu jouer au plus malin en prenant le train, » se dit Luke, « mais que pouvais-je faire d'autre ? » Il n'était pas censé découvrir le subterfuge aussi vite. Dans l'immédiat, il pouvait remédier à un inconfort. Se tenant d'une main au siège d'un tracteur de jardin pour assurer son équilibre, il dévissa le bouchon d'essence d'un motoculteur John Deere, ouvrit sa braguette et pissa au moins 10 litres dans le réservoir vide. C'était un sale coup pour le futur propriétaire de cet engin, mais à circonstances exceptionnelles, solution exceptionnelle. Il revissa solidement le bouchon, puis il s'assit sur le siège du tracteur de jardin, plaqua les mains sur son ventre vide et ferma les yeux.
« Pense à ton oreille, » se dit-il. « Pense aux éraflures dans ton dos. Pense à la douleur, et tu oublieras combien tu as faim et soif. » Et ça fonctionna, jusqu'à ce que ça cesse de fonctionner.
Lorsque s'immiscèrent des images d'enfants quittant leur chambre pour aller prendre leur petit déjeuner au réfectoire, ce qui aurait lieu dans quelques heures. Il ne parvint pas à chasser la vision des pichets de jus d'orange et de la fontaine remplie de Hawaiian Punch rouge.
Oh, comme il aimerait y être.
Il boirait un verre de chaque, puis il déposerait dans son assiette une montagne de brouillé et de bacon.
Non, tu peux pas souhaiter être là-bas, se dit-il. Penser ça, ce serait de la folie.
Pourtant, une partie de lui-même en rêvait. Il ouvrit les yeux pour se débarrasser de ses visions, mais celle du pichet de jus d'orange était têtue, elle s'accrochait. Soudain, il aperçut quelque chose dans l'espace entre les nouvelles caisses et les petits engins à moteur. Tout d'abord, il crut à un effet d'optique, dû à l'éclat de la lune entrant par la porte du wagon entrebâillé, puis à une hallucination. Il battit des paupières. C'était toujours là. Il descendit du siège du mini-tracteur pour s'en approcher à petits pas. Sur sa droite, des champs éclairés par la lune défilaient à travers l'ouverture de la porte. En quittant Denison Riverbend, Luke s'était abreuvé du paysage, émerveillé et fasciné. Mais maintenant, il se désintéressait du monde extérieur. Toute son attention était fixée sur le sol du wagon, et plus précisément sur les miettes de donut. Il y avait même un petit morceau. Il commença par celui-ci. Pour ramasser les miettes, il humecta le bout de son doigt. Craignant de perdre les plus petites dans les rainures du plancher, il se pencha et sortit sa langue pour les lécher.